et peut-être aussi pas très heureuse actuellement dans votre vie et assez seule dans votre couple et peut-être depuis un moment. Et la retraite fait un peu valeur de vérité. Vous étiez une femme qui avait l'habitude de diriger, hein, me dites-vous. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez privée de ce pouvoir-là.
Ben, je me trouve,
et en fait, très démunie. On va marquer une pause, le temps des informations.
Mais Caroline, vous m'avez aidée. Déjà, j'ai pu parler.
C'est vrai ? Vous ne souhaitez pas poursuivre ?
Non. Déjà, j'ai pu parler, ça m'a fait du bien. J'avais envie de parler.
Mais oui, mais j'entends ça, en fait, Louise. Vous avez besoin de parler. Parce que vous n'avez pas assez d'écoute. Et peut-être, essayez de trouver quelqu'un. Allez parler comme vous l'avez fait avec moi. Bien sûr, il faudrait trouver peut-être à travers des activités, des amis et autres, mais peut-être aussi aller parler un peu à un professionnel. Accordez-vous ce temps à vous. Ça serait important, je pense. Bon, on en reste là, alors, si vous le souhaitez, d'accord ? Moi, je dois rendre l'antenne là pour les infos.
Aussi.
D'accord ?
Bonne journée.
Bonne nuit, Louise.
RTL,
il est minuit. 24 heures d'infos avec Rachel Sadodine.
Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire suite à la blessure par balle à la poitrine de Kenji Girac. Le chanteur de 27 ans a été retrouvé blessé donc à la poitrine sur une aire d'accueil des gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes dans la nuit de dimanche à lundi. Il a déclaré s'être blessé lui-même accidentellement en manipulant une arme achetée quelques jours plus tôt. Un pistolet a été retrouvé sur l'aire d'accueil. Des analyses sont en cours pour tenter de déterminer s'il s'agit de la même arme que celle qui a blessé le chanteur. Troisième personne placée en garde à vue à Grande-Synthe, dans le Nord, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Philippe Kopmann. Il s'agit du cousin d'un des deux mineurs déjà mis en examen et placé en détention provisoire. Ce jeune homme de 15 ans avait lui-même été violemment agressé ce week-end. Sa mère témoignait sur RTL, niant la participation de son fils à l'assassinat de Philippe Kopmann. Dossier complet sur l'enquête en cours sur RTL.fr et l'application RTL. Jean-Luc Mélenchon en conférence à Sciences Po Paris après l'annulation de son intervention à l'Université de Lille la semaine dernière. Devant près de 800 personnes, le leader insoumis s'est dit choqué par cette annulation, dénonçant une administration lilloise qui, selon lui, a cédé à des pressions sur fond de polémique quant à ses positions sur la situation à Gaza. Dans l'ouest parisien, la 13 va rester partiellement fermée jusqu'au 30 avril, annonce de la préfecture des Hauts-de-Seine qui fait suite à une fissure constatée sur la chaussée. Début de la deuxième semaine du procès de l'ex-président américain Donald Trump, les débats ont commencé. Candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre prochain, le milliardaire continue de clamer son innocence, dénonçant une chasse aux sorcières. C'est ce qu'il a répété encore une fois à son arrivée au tribunal de Manhattan. C'est la première fois qu'un ex-président américain est jugé au pénal. Donald Trump, accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne star de film X juste avant le scrutin présidentiel de 2016 qu'il a remporté. L'actualité internationale, c'est aussi cette déclaration du président ukrainien après un appel téléphonique avec son homologue américain. Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine et les États-Unis ont commencé à travailler sur un accord de sécurité bilatéral. Volodymyr Zelensky qui a également remercié Joe Biden pour la nouvelle enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars débloquée en fin de semaine dernière par la Chambre des représentants aux États-Unis. La météo, temps mitigé dans l'ensemble avec de l'instabilité qui perdure sur les régions du centre-est toute la journée sous forme de neige à partir de 700 mètres d'altitude. Des averses peuvent s'accompagner d'orages sur l'île de Beauté et la côte d'Azur. Ça reste très couvert avec quelques faibles pluies localisées le long de la Manche et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis dans l'après-midi, le soleil fera davantage d'apparitions. Ça reste calme, mais avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies partout ailleurs. Les températures, elles sont dignes d'une fin février avec à nouveau des gelées sur une large moitié nord de moins 2 degrés à 2 degrés. Ça ira jusqu'à 8 degrés sur la façade atlantique et en bord de Méditerranée. Les courses, elles ont lieu à Compiègne. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 6, le 8, le 4, le 15, le 9, le 7 et l'outsider de RTL, le 4, Tiponge des Îles.
RTL, 24 heures d'info.
Jusqu'à minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Il nous reste encore une demi-heure pour nous parler. Nous sommes à vos côtés jusqu'à minuit et demi. et vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11. Alors il y a des messages qui sont arrivés pour Louis, j'espère qu'elle pourra les écouter puisque je lui avais proposé de rester mais bon, elle n'a pas souhaité. Il y a Tony qui dit mais Louise n'a pas à être le larbin de sa famille, elle doit savoir s'imposer gentiment, elle n'est redevable de rien. Il y a Bob White qui dit peut-être pourriez-vous essayer de retrouver une activité qui vous occupera, parce que Louise nous parlait de son jardin, de la couture, mais qui sont quand même des activités solitaires et on la sentait seule, n'ayant pas créé de lien peut-être en dehors de son travail. Bob White dit entrer dans une association par exemple, ou du sport, ou en tout cas vos enfants n'ont pas à vous imposer ce que vous devez faire. Et puis c'est ce que dit Louis aussi, il faut savoir dire aux gens qu'elle a une vie et qu'elle n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire telle ou telle chose. Paul, des réactions aussi qui sont arrivées peut-être sur Facebook ?
La retraite, c'est un cap, comme un grand vide, c'est ce que dit oui. Nathalie. N'écoutez pas votre famille, vous n'êtes pas une enfant. Faites-vous respecter, ils n'ont pas à vous diriger. Puis votre mari, il n'est pas d'un très grand soutien, alors bah, vous pouvez vous trouver des centres d'intérêt ou une aide pour parler, pour ne pas être seul.
Oui. Oui, on sent une grande solitude, cet éloignement, mais en province, alors que sa famille est en région parisienne, mais quand même 40 ans d'une vie en province, finalement, où des liens qui ont été beaucoup autour des enfants, de l'éducation des enfants, le travail, mais l'heure de la retraite peut créer effectivement un sentiment de vide, un sentiment de désœuvrement, et peut renvoyer à un vide un peu dépressif. Donc, il est important aussi, ça peut être important à ce moment-là de trouver une écoute et du soutien. On va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Victoire qui voulait, je crois, revenir sur le témoignage de Sandra, cette jeune femme qu'on a entendue hier soir.
Some kind of
Suzanne Vega sur RTL, Luca.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Victoire.
Bonsoir Caroline.
Quel beau prénom.
C'est pour, gagner. C'est pour y arriver enfin. Oui, je voulais réagir au témoignage de Sandra hier soir. Hier ou avant-hier, je ne sais
alors,
plus.
Alors, c'était hier soir, Sandra, une jeune femme de 38 ans qui avait beaucoup de troubles anxieux, de phobie sociale.
J'avais l'impression de me retrouver à la fois dans son histoire et dans sa manière de vivre le monde. Appréhender le monde. Et puis ce soir, il y a eu le témoignage de Jeanne. Et pour le coup, je me suis dit, il faut que j'appelle.
Oui.
Parce que l'un plus l'autre, les deux témoignages, pour moi, c'était un peu le... Par rapport à mon histoire, c'était
qu'est-ce qui a résonné en vous, alors, dans ces deux témoignages, celui de
Sandra? Eh bien, il y avait les abus...
Et de Jeanne.
La façon de Sandra d'être différente et d'être très discrète et
oui, presque invisible.
Moi, j'étais comme ça.
C'est
oui,
le terme
invisible.
Qu'elle utilisait.
Ah oui, voilà. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir une enfance où, enfin moi, je n'existais pas. Enfin, ça aurait été mieux si je n'existais pas. C'était pas désiré et ni mon père ni ma mère, en fait. Je dérangeais, je sentais que je dérangeais. Et j'étais une enfant très intelligente, mais très tout à l'intérieur. Donc je pense que je suis autiste Asperger, même si je n'ai pas fait les tests maintenant, que je ne comprends pas les codes sociaux et j'arrive très bien à m'exprimer, mais enfin, je suis plus à l'aise à l'écrit, je dois dire.
Mais c'est là quand vous dites que vous avez une difficulté à rentrer en lien avec
Je rentre en lien très facilement, mais après, je le rentre en lien, je dois toujours poser des questions, et... Une fois que j'appréhende les gens avec les réponses, presque je ne sais plus quoi leur dire. Et en fait, j'ai du mal à rester en lien longtemps avec les gens.
Oui, donc vous avez une capacité à entrer en relation, ce qui n'est pas donné à tout le monde, assez facilement.
Oui, très, même trop.
Voilà. Alors ça, c'est une difficulté contre les personnalités, enfin les gens qui ont des troubles du spectre autistique, et notamment les autistes Asperger. C'est très compliqué d'entrer en relation avec l'autre, d'entrer dans le monde de l'autre. Vous entrez en relation, mais c'est maintenir une relation qui est compliquée.
Oui.
C'est ça.
Mais enfin, j'arrivais pas à entrer en relation avec personne.
Mais si déjà chez vous, vous me dites que il aurait mieux valu que vous n'existiez pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est-à-dire que au fond, comme si vous n'étiez pas à votre place, comme si vous vous dérangiez.
Oui,
vous voyez, ça. Comme si auprès de vos parents, vous n'existiez pas aux yeux de vos parents.
C'est ça. Ils ne voulaient pas.
Oui, mais il y a des enfants qui n'ont pas été désirés et qui, pour autant, ont été aimés. C'est-à-dire qui n'ont pas été désirés, qui n'ont pas été inscrits dans un projet, beaucoup à une époque, quand il n'y avait pas la contraception, enfin les enfants arrivaient parfois. Mais pour autant, ne pas être désiré ne veut pas dire ne pas être aimé. Hein.
C'est ça, mais j'avais fait une psychothérapie de 5 ans et j'en ai sorti des choses quand même.
Qu'est-ce qu'il en est sorti, alors, de cette psychothérapie?
Il en est sorti toutes les choses que j'avais enfouies, les abus dans l'enfance.
Des abus
Quel
genre d'abus?
Incestuels.
D'accord.
Un grand-père qui habitait avec nous, mais qui avait des gestes par rapport à son sexe, qui me montrait, qui me... Oui, il me montrait en érection et après il me disait des mots qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge. Mmh. Ça fait dur. Oui, c'est dur, ça se bloque dans la gorge. Ça a duré quelques années. Après, il y a eu mon frère. Et puis, il y a eu mon cousin. Et lui, c'était... On peut dire que c'est un viol. Et donc... quand j'en ai parlé à ma mère, j'avais 40 ans. Alors que tout ça, ça s'était passé entre 6 ans et 11 ans environ. Mmh. Et elle était complètement fermée. Elle m'a dit comme ça, très durement, très froide. Non, des choses comme ça dans notre famille, ça n'arrive jamais. Mmh. Et mon père est à côté de moi. Je pense que c'est pas mon père, mais bon, ça, pour le moment, je ne peux pas en être sûre. Il ne disait rien. Et après, dans la famille, ça a été le déni. J'essayais de parler aux mes frères et sœurs. Donc le frère, il a reconnu. Bon, c'est compliqué. J'essayais de garder les liens avec la famille. Donc, mais c'était toujours. Je me sentais toujours coupable et mal à l'aise. Donc, ça a été. Et le pompon, ça a été à 5 ans. Et là, depuis, on va dire, cette histoire. Donc, j'essaie de me simplifier. Ce frère a marié un de ses enfants. Et je me suis demandé si je devais y aller. Et j'avais pas vraiment envie, mais je suis allée aussi pour voir d'autres personnes de la famille. Et j'espère que le cousin ne soit pas là. Mais en fait, le cousin était là.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Il a 10 ans de plus.
Il a 10 ans de plus.
D'accord. Oui, il était adulte.
Mais alors, si j'ai bien compris, vous me parlez d'un grand-père incestueux,
oui,
d'un frère et d'un cousin.
Oui, voilà.
Mais alors, vos parents, ils étaient où en fait? Puisque vous me dites, votre grand-père, il vivait à la maison, si j'ai bien compris.
Oui, c'était donc, une ferme. Et mon grand-père vivait avec nous.
D'accord.
Eh bien, oui. ça se passait toujours le matin.
D'accord.
Et les parents, ils étaient partis traire les vaches.
D'accord.
En fait, tout le monde s'en foutait de moi, je vous le dis.
Oui, si chacun était très occupé, enfin très pris par ce travail dur de la ferme, mais vous étiez livré à vous-même, quoi, avec ce grand-père.
Oui, même ma mère, elle s'occupait pas de moi, de toute façon.
Oui, mais enfin, c'est pas dans la... Alors, je ne sais pas si c'est du point de vue... c'était un grand-père maternel, paternel ?
Maternel, oui.
Maternel. D'accord. Donc, en fait, le cousin, c'était du côté maternel, parce que vous me dites, il y a le grand-père incestueux, le frère, le cousin, donc comme s'il y avait une famille à transactions incestueuses, où finalement, transmettait d'une génération à l'autre.
Oui, et puis mon frère, après, quand je lui en ai parlé, parce qu'à lui, j'ai pu un peu parler. Et lui, il m'a dit, oui, bah, le grand-père qui nous disait de le faire. Enfin, bon, ils étaient adultes, hein, les deux. Ils étaient adultes, ils avaient l'âge de comprendre qu'ils ont fait pas ça à une petite fille, quoi.
Bah, adultes, ils étaient adolescents, en fait. Si vous aviez 6 ans et qu'il avait 10 ans de plus,
non,
il avait 16 ans, quoi.
Non, enfin, moi, avec le grand-père, c'est quand j'avais 6 ans, 7 ans. Hmm. Et ensuite, quand j'ai eu 11, 12 ans, il y a eu les deux qui s'y sont mis.
Oui, mais il n'y a pas d'interdit posé. C'est comme si, finalement, étiez... vous voyez, je parle de famille à transactions incestueuses, où ça devient banalisé.
Ils étaient grands, le frère.
Oui, mais ils ont grandi dans un contexte où, en fait, vous étiez là plus objet que sujet.
Oui, c'est ça. Hmm. Et donc, après, pour en revenir à ce mariage... quand j'ai voulu exposer ou vouloir partager ma douleur ou qu'on me comprenne avec la compassion, parce que je me suis écroulée après, en fait, psychologiquement, au mariage, j'ai réussi à lui parler.
Vous ne l'aviez pas revu auparavant ? Vous ne l'aviez jamais revu, ce cousin ?
J'avais revu au décès de mon père. 2 ans avant encore.
2 ans avant. Mais donc, vous êtes resté des années sans le voir, puisque vous me dites le mariage a eu lieu il y a 5 ans.
Des années sans le voir, oui, heureusement.
Ah oui.
Et en fait, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Quand je l'ai vu au mariage, que j'ai vu son visage, déjà, j'avais une angoisse.
Mais oui.
Et je l'ai vu, mais on ne s'est pas parlé. Et quand, au mariage, qu'il est venu me parler, là, j'ai dit, il faut que je parle, il faut que ça s'arrête. Il y a des petites filles, ça pourrait continuer. Et donc, j'ai voulu que ça s'arrête. Donc, j'ai pris sur moi pour parler. Et donc, j'ai parlé, mais après, je me suis écroulée.
Mais oui.
Au mariage, je n'étais pas là. Je suis partie dormir parce que c'était psychologiquement, c'était affreux. Mmh. Et puis, quand j'en ai parlé à mes frères et sœurs, eh bien, c'était des remarques comme « Mais tu comprends, on ne pouvait pas faire autrement que de l'inviter ». Ou alors,
mes beaux frères et sœurs étaient au courant de votre histoire ?
Bien sûr, parce qu'ils l'avaient dit avant.
Bah non, donc ils pouvaient faire autrement. Je suis désolée.
Voilà, ils pouvaient faire autrement. Et après, ma sœur aînée, elle m'a dit le lendemain, elle m'a dit mais enfin, je comprends pas, t'as encore pas réglé cette histoire. Mais j'ai dit mais tu te rends pas compte.
Bah, ça peut pas se régler tant que finalement la victime n'est pas reconnue dans sa position, dans sa souffrance de victime, et tant que l'agresseur est intégré à la famille et que la famille fait comme si tout allait bien. Donc ça ne peut pas se régler, et ça ne se règle surtout pas en famille, puisque c'est la famille qui dysfonctionne complètement.
Donc j'ai coupé les liens.
Bah, c'est la seule chose à faire.
C'est la seule chose à faire. Oui. Et à mon anniversaire, mon frère m'a appelé et je lui ai crié au téléphone dessus. Parce que maintenant, quand j'arrive, je crois que je suis quand même devenue un peu perturbée avec tout ça. Et s'il y a des gens négatifs qui arrivent, je n'ai pas l'assertivité pour leur répondre comme il faut. Donc, si
vous avez quel âge aujourd'hui, Victoire ?
J'ai 59 ans.
Victoire, c'est votre prénom ?
Ou c'est mon deuxième.
Ah oui, mais je comprends que vous avez choisi ce deuxième prénom.
Parce que j'ai repris mes études à 50 ans et que je voulais réussir.
Mais oui, qu'est-ce que vous avez repris comme études ?
Histoire de l'art, archéologie, parce que je voulais être archéologue enfant, mais je n'ai pas réussi.
Il y avait des choses à creuser, à explorer, à fouiller dans cette histoire familiale.
Non,
c'est bien que vous ayez repris.
Oui, mais bon, je n'ai pas réussi à... Je n'ai pas eu ma licence parce que j'ai un handicap en plus de mon... Enfin, si, c'est en lien avec mon hypersensibilité. Je suis électro-hypersensible. Je ne supporte pas les ondes, le Wi-Fi, le Bluetooth, Internet. Donc, l'université, pour moi, c'est épuisant.
Pourquoi ?
Parce que tout le monde a son ordinateur allumé, son téléphone, comprenez ? Les électro-hypersensibles. On n'en parle pas de ça, je sais que c'est pas très connu.
Si on en parle.
Ça me fatigue beaucoup d'être dans un environnement où il y a trop d'ordinateurs, trop de wifi, trop de... Et maintenant, à l'université, il y en a partout. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas réussi à finir ma licence.
Et aujourd'hui, alors, comment vous avez... parallèlement, vous avez un métier ? Sonide, vous avez repris vos études ?
Avant, j'étais informaticienne. Et à cause j'ai fait des burn-out graves. J'ai fait des burn-out très graves, j'en ai fait 3 à la suite, et c'était il y a longtemps, maintenant, 15 ans, plus de 15 ans. Oui, 15 ans, et ils n'en parlaient pas, et la médecine du travail...
Vous avez une hypersensibilité, en fait, et certainement liée à tout ce que vous avez vécu, à votre histoire, et au fond, vous avez été bombardée dès votre histoire, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, dans un environnement plus que toxique. Votre corps réagit de tous les côtés, appelle, crie, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous en avez fait de cette souffrance ? Au fond, vous me parlez d'une psychothérapie de 5 ans,
où
vous avez déterré me dites-vous, vous avez des choses, mais une fois qu'on les déterre, parce que ces choses-là déterrées peuvent vous exploser à la figure.
C'est ça, ça m'est un peu...
C'est-à-dire qu'une fois, de déterrer, de faire... Mais là, c'est là où il ne faut pas lâcher, où il y a vraiment besoin d'un accompagnement, parce que sinon le corps souffre, la tête souffre, vous revivez tout.
La personne qui me suivait, en fait, a été mutée ailleurs, et s'occupait déjà des enfants abusés.
D'accord.
Pour moi, c'est parfait.
Oui.
Il a été muté trop loin d'où j'habitais. Moi, j'avais mes enfants, j'ai trois enfants qui étaient jeunes. J'ai pas
vous avez trois enfants, vous?
Oui, j'ai même des petites filles, j'ai trois filles, j'ai deux petites filles.
Donc vous avez pu, d'accord, construire sur ce plan-là.
Même si, non, question de l'histoire d'amour, ça n'a pas marché. J'ai un divorce et après une histoire qui n'a pas fonctionné. Mais bon, j'ai eu des enfants.
Oui, avec qui vous êtes en lien, avec qui ça se passe bien.
Oui, je suis en lien, même si ce n'est pas toujours évident avec une d'entre elles. J'étais jeune quand tout ça s'est passé, ça les a perturbés beaucoup. Mais sinon, je dois dire que j'ai réussi à écrire une lettre qui expliquait ce que j'ai vécu et qu'il ne fallait pas qu'elles emmènent les petites filles auprès de cette personne, ce cousin, parce qu'il était dangereux.
Qu'elle le voyait, sinon
Oui, la famille... famille a essayé de garder les liens avec elle et tout en les coupant avec moi.
Oui, mais les familles comme ça, en fait, se protègent et malheureusement, c'est la double peine pour les victimes qui sont qui n'ont d'autre choix que d'être dans la rupture pour leur survie, pour leur protection, au-delà de leur protection, pour leur survie. Mais la famille, elle, en système, quand on voit la famille comme un système, on parle de système familial, qui fait bloc. Et qui fait bloc, et ce qui est terrible, c'est que en dénonçant un inceste, vous agressez le système familial, du point de vue du système familial, donc le système familial vous expulse. Et c'est là la double peine, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que la famille se protège.
Mais moi, je veux plus, ça me fait trop de mal.
Mais c'est pour ça que je vous disais, à un moment pour votre survie, il n'y a que le choix de la rupture. Et ce qui est important, c'est que vous avez quand même, il y a des personnes qu'une telle histoire empêche de se construire, empêche. De vivre une histoire d'amour empêche de devenir parent. Vous avez pu.
C'est vrai.
C'est pas rien, ça. Vous portez bien votre deuxième prénom.
Ah bon ?
Mais oui,
c'est
vous portez bien votre deuxième prénom.
J'ai l'impression d'avoir tout raté, mais non.
Non. Ben non.
Non. Je vais pas au bout de rien, ce que j'avance, mais de ce qui commence, mais je le fais un peu quand même.
Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a d'ailleurs Tina qui dit « Je vous comprends, Victoire, moi aussi je suis hypersensible aux ondes. Ce sujet avait été soulevé sur France 5 d'ailleurs. » Tina qui vous embrasse. Elle parle d'une émission, mais alors je ne sais pas quand.
J'ai plus la télé, j'ai plus de box, je vis déconnectée. Oui. Hein. Je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai pas de télé, j'ai juste la radio et un petit téléphone.
Oui. Ben heureusement que la radio, que les ondes ne vous font pas de mal.
Au moins, encore
heureux, comme ça vous pouvez nous écouter et nous appeler, écouter de la musique. Mais écoutez, en tout cas, vous avez bien fait d'appeler pour, puisque ces deux histoires résonnaient très fort avec la vôtre. Poursuivez.
Et on peut être heureux, même si on a plus cette famille qui, parce que c'est une famille pas sympa, c'est pas une famille.
C'est une famille toxique. Il faut que vous poursuiviez votre chemin. Vous avez construit la vôtre de famille et puis que vous poursuiviez et à un moment, la rupture est absolument nécessaire, même si ça aussi, c'est source de douleur, parce que c'est vous qui devriez pouvoir trouver votre place, mais malheureusement, dans de tels systèmes familiaux, ce n'est pas possible. Prenez soin de vous, Victoire.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse. Au revoir. C'est fini pour cette nuit. Merci pour tous ces échanges nocturnes. Passez une belle nuit. Et on vous dit, avec la petite équipe, à ce soir, 22h.
RTL. Merci de passer la nuit à l'écoute de RTL.
Tout de suite, nous vous
proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Aujourd'hui, notre matinale se trouve à Marseille, une ville chère au cœur de tous les amateurs d'histoire, n'est-ce pas Laurent ?
Ben, bien sûr, Marseille, c'est le début, la source, la matrice originelle, la première ville de ce qui sera un jour la France. Car en effet, tout a commencé ici, en l'an 599 avant notre ère, c'est-à-dire 5 siècles avant la fondation de Paris,
ah oui,
de Lyon et même de Strasbourg, par exemple.
Que s'est-il passé pour qu'une ville soit bâtie justement à cet endroit, sur les rivages méditerranéens ?
Pour tout comprendre, il faut se diriger vers Phocé, une ville grecque située au bord de la mer Égée, aujourd'hui en Turquie. Il y a 2600 ans, les Phocéens se sentaient un peu à l'étroit derrière les murs de leur cité. Alors, ils ont eu l'idée d'envoyer des explorateurs faire un petit tour de la Méditerranée, histoire de trouver l'endroit idéal pour établir une nouvelle colonie. Deux navires ont donc quitté Phocé, sont passés au large d'Athènes, ont remonté l'Italie et ont poursuivi leur périple jusqu'au moment où ils ont aperçu des calanques blanches qui flamboyaient sous le soleil. L'air était pur, l'eau était claire, la lumière était chaude. Ici, tout leur rappelait leur lointaine patrie.
Ah mais je comprends pourquoi on parle de cité phocéenne. Ils ont voulu s'établir dans ce site enchanteur.
Oui, ils ont débarqué et ils sont entrés en contact avec les indigènes du coin qui s'appelaient les Ségobriges. Et franchement, tous les opposaient. Hein. Les Ségobriges, ils n'avaient pas le pied marin, pas du tout. C'était des agriculteurs qui vivaient sur des collines et qui se méfiaient des caprices de la mer. Ils ont donc vu avec stupeur ces Grecs surgir des flots à bord de leurs navires. Mais coup de peau, personne n'avait envie de faire la guerre.
Ah bah c'est bien.
D'ailleurs, pourquoi se battre ? Les Grecs voulaient juste rester sur le rivage et établir un port, alors que nos Ségobriges ne souhaitaient que demeurer sur les hauteurs le plus loin possible de la mer.
Alors des gens bien différents, mais qui vont parfaitement s'entendre.
Et ils se sont si bien entendus que Protis, le chef de l'expédition phocéenne, a épousé Gyptis, la fille du roi des Ségobriges. Le mariage à peine conclu, Protis s'est empressé d'aller annoncer à ses concitoyens l'ouverture d'une nouvelle colonie à l'autre bout de la mer. Enthousiasme à Phocé, on allait pouvoir établir des bouts trouver de nouveaux clients, faire du commerce et s'établir dans ce nouveau pays.
Magnifique, c'est donc ainsi que l'on crée une ville.
Eh oui, au fil des siècles, une importante cité s'est élevée. Cette agglomération, les Phocéens l'ont appelée Massalia, les Romains en feront Massilia et les Français Marseille. Marseille, à jamais la première.
Prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20 ou dès maintenant en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et tout de suite, on rit ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonne nuit à l'écoute de RTL. RTL.
L'œil de Philippe Cavrivière en direct de Marseille.
Absolument, l'œil de Philippe. Amandine, Louis, Philippe, vous êtes ce matin à l'hôtel Beauvau sur le Vieux-Port de Marseille avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Et Philippe qui est de retour de vacances, où étiez-vous Philippe ?
Alors, deux indices sur ma destination de vacances. Je porte une sublime djellaba blanche et je vous passe DJ Abdelaziz. J'étais, non, pas dans les quartiers nord de Marseille, c'est une bonne vanne raciste, mais ça n'est pas la bonne réponse. Je viens de Marrakech.
Ah,
c'est comme Marseille.
Autre ambiance.
C'est comme Marseille, mais avec mon arabe. Et c'est pas une vanne,
Philippe,
c'est les chiffres. Ce sont les chiffres. Oui, alors j'étais à Marrakech hier, aujourd'hui je suis à Marseille, et demain je serai à Paris, et j'ai un peu l'impression d'être un kilo de chiffres. J'ai l'impression d'être un go-fast qui prend son temps. Nous sommes donc à Marseille, Yves, où nous avons rassemblé la totalité des auditeurs des Bouches-du-Rhône. Ils sont 12.
Non.
On a trouvé 12 personnes cultivées.
Ils font du bruit.
Voilà. Sur 1 million d'habitants, tous les autres écoutent sur le radio RMC, Jean-Jacques Bourlin, ses enfoirés. Voilà. Ça nous change du Nord. Pardon, je m'excuse auprès de Lens, Sochaux, Lille.
Oui.
Vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas de dents, mais vous avez l'ambiance. Tiens, petite digression sur le Mistral, Louis. Nous en parlait hier, j'ai atterri à Marseille par Mistral.
Oui.
C'est une expérience.
Oui.
Ah là, c'est un grand 8 au Luna Park. Je suis descendu, j'ai commandé une pomme d'amour. Terrorisé.
Bon. Alors Philippe-Pierre-Édouard Colliex, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, est resté et il est venu nous parler de l'opération PlaceNet XXL qui a été lancée le mois dernier à Marseille.
Tout à fait. Prends ma place dans le trafic.
Ah Carlos, foutu anorexie. Je plaisante, vous avez tous reconnu Francis Cabrel qui encourageait les jeunes à se lancer dans le trafic de drogue. Alors la dernière fois nous étions à Lens car ils avaient gagné le concours de pièces jaunes. Et ce matin nous sommes à Marseille car vous avez remporté le concours des meilleurs trafiquants de drogue pour la deuxième année. 12e année consécutive, bravo. Vive la Marseillais à l'LOM. Bonjour Pierre-Edouard. Alors, quand j'ai appris qu'on venait à Marseille, je me suis dit super, c'est l'occasion de rencontrer des stars. Soprano, Joule, SCH, IAM, Bonne de la Funky Family. Amandine m'a alors notifié votre nom, Pierre-Edouard Collièx. Et ma première réaction a évidemment été, c'est pas avec un nom pareil qui va retourner la scène rap ou remplir le stade Vélodrome. Mais ça tombe très bien, c'est pas votre projet. Vous êtes préfet de police des Bouches-du-Rhône. En poste depuis 2 mois et toujours pas en burn-out. Ça, c'est déjà un exploit.
Oui.
Et on salue vos 12 prédécesseurs qui nous
écoutent
à l'hôpital de la Timone ou un service leur est dédié. Non, c'est bien d'avoir nommé un préfet fraîchement nommé, parce que s'il avait été en place depuis 10 ans, on aurait été obligé de lui dire « Dis donc, Pierrot, t'as vu le bordel, là ? T'as rien foutu !» Alors que là, tout est permis. Tous les espoirs sont permis. Et d'ailleurs, cessons les clichés sur Marseille. On est déjà... 57 minutes d'émission et regardez, écoutez, aucun tir de Kalachnikov à déplorer. On peut parler d'un franc succès.
Arrêtez, franchement. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône qui a donc dressé un premier bilan de cette opération PlaceNet lancée il y a 5 semaines, jour pour jour, par Emmanuel Macron.
Et l'opération PlaceNet a porté ses fruits parce que nous, avec Louis, on a galéré hier soir pour trouver un truc à fumer. On le redit, la drogue, bien sûr, c'est le week-end, c'est avec modération.
Mais non, modération. C'est pas du tout, c'est interdit.
C'est interdit.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est avec modération, surtout et en privilégiant une production locale et bio, avec Louis, donc on a fumé du thym, du romarin et du basilic,
bah oui.
On dirait une recette de Lignac. Bah, évidemment, la drogue est un fléau, on le redit, le docteur Jimmy Mohamed me faisait la liste. Alors il y a ces bâtards de Dragibus, ces saletés de fraises Tagada, les schtroumpfs bien sûr, les petits crocodiles, les nounours multicolores. Je parle bien sûr d'Aribo, l'entreprise locale, et le PDG nous en a offert hier et on est tombé dedans. On est tombé dans la cam. C'est que Jimmy Mohamed est plus remonté contre Aribo que contre la coke ou le cannabis.
Et on sera justement dans les coulisses de l'usine Haribo dans le journal de 8h. Restons à Marseille avec une actualité quand même plus positive et ça aussi on va en parler. La flamme olympique Philippe arrivera ici le 8 mai, juste en face de nous d'ailleurs.
Eh oui, elle vient de Grèce et il faut 10 000 personnes pour la porter. La flamme olympique, c'est un peu Demis Roussos sur sa fin de carrière finalement. Alors pendant son escale, la flamme passera dans les lieux emblématiques de la ville, comme Notre-Dame de la Garde, le Pharo ou le Vélodrome, mais pas dans les quartiers nord puisque le but est qu'elle continue son parcours et pas qu'elle reste à Marseille. Voilà. Et puis le 10 mai, la flamme fera comme tous ceux qui veulent réussir dans la vie, elle quittera Marseille pour rejoindre Paris. Voilà. D'ailleurs, petit conseil pratique à mes dealers, la flamme est creuse et elle peut contenir 2 à 3 kilos de cocaïne. Pas de cannabis, parce qu'évidemment, avec la fumée, on va le sentir. Et puis le porteur de flamme, il va être défoncé, il va partir dans le décor. Voilà, je me rends compte que j'aurais peut-être dû m'abstenir de ça. Devant le préfet.
Et méfiez-vous, vous risquez de vous faire embarquer.
Exactement.
Jamais repartir.
Allez, l'Ouest.
L'œil de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. A tout de suite.
Je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang. M'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein. Et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan. Brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Et t'emmener haut, te saluer bas, chanter des chansons. Chanter tout bas notre amour pour les 4 saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui. Ou bien tout ça, si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence. Je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis ce jour des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Moi je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. soirées parisiennes. Je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne.
Savoir sûr.
Bonjour, c'est Bernard Lehu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout savoir sûr, le podcast de la rédaction de RTL. Je vous invite à une rencontre rare avec Hervé Le Tellier. Il y a 4 ans, l'écrivain obtenait le prix Goncourt pour son roman L'Anomalie, le Goncourt le plus vendu de l'histoire, plus 1,5 million d'exemplaires. 4 ans plus tard, Hervé Le Tellier revient en librairie. Dans Le nom sur le mur, il rend hommage à un jeune maquisard de la Drôme, mort pour la France à l'âge de 20 ans. Dans quelles circonstances ce livre s'est-il imposé à son auteur? Renouer avec l'écriture après le succès phénoménal de L'Anomalie, était-ce si facile? Comment l'écrivain a-t-il vécu les 4 années qui ont suivi son prix Goncourt? Et en quoi sa vie a-t-elle changé? Hervé Le Tellier, en toute liberté, un entretien exceptionnel au micro de Tout savoir sûr. Hervé Le Tellier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Le nom sur le mur chez Gallimard. Alors, ça n'est pas un livre anodin, puisque c'est le livre d'après qui suit votre prix Goncourt, 4 ans déjà. Est-ce que, justement, s'attaquer à ce livre d'après, et en particulier après le succès phénoménal que vous avez connu avec L'Anomalie, c'est une espèce d'épreuve? Est-ce que pour l'auteur, on hésite à se lancer dans l'écriture d'un nouveau livre? Est-ce que c'est plus compliqué tout simplement que vos livres d'avant?
Non, la réponse est rapide. Non, c'est pas plus compliqué qu'écrire un nouveau livre de toute façon. La question qui se pose, c'est de trouver le temps en fait, plutôt qu'autre chose. Donc il s'est passé un an et demi où j'ai été pas mal mobilisé, ce qui m'a un peu interdit de travailler. Et puis j'étais parti sur un autre livre, puis sur un deuxième, qui est en cours d'ailleurs, et que j'ai interrompu parce que j'avais comme une échéance par rapport à ce livre, qui est l'histoire d'un jeune homme qui est né en 1924, et donc j'avais cette échéance de 2024, je tenais à ce que ça soit son centenaire, même si c'est un inconnu, même si c'est quelqu'un qui n'a pas laissé une trace dans l'histoire avec un grand H. Et cette échéance, ça fait que je me suis lancé dans le travail environ un an et demi. Et dans cette enquête, beaucoup m'a été un peu donné par chance.
Ouais.
Et c'était la raison pour laquelle je me suis même presque à un moment senti tout à fait obligé de le faire. Parce que trop de choses m'avaient été données pour que je les utilise pas. Enfin, il y a une sorte de hasard objectif qui faisait que ça donnait vraiment envie de l'écrire.
Racontez-nous tout d'abord, en effet, ce livre, en quelque sorte, vous est offert. Racontez-nous la découverte qui est à l'origine de ce livre.
C'est assez simple. Une maison dont j'avais fait l'acquisition, qui a un vieux relais de poste, dans un petit village de la Drôme. Sur le crépi, j'avais découvert un nom gravé, qui était André Chex. Quelques années plus tard, j'ai regardé, ce qui n'est pas un acte immédiat, les noms qui se trouvaient sur le monument aux morts. Et là, j'ai vu que André Chex se trouvait parmi ces noms, et tout à fait à la fin, avec marqué 1924-1944. Donc ça voulait dire qu'il était mort à 20 ans ou à 19 ans. Et que il faisait partie de ces jeunes maquisards, parce que ça ne laissait aucun doute en termes de date, hein, qui avaient pris les armes pour libérer la France, la Drôme, qui certainement se trouvait dans le maquis non loin, c'est-à-dire le maquis de la Lance, ou le maquis du Vercors, mais plus vraisemblablement maquis de la Lance. Alors ça m'a donné envie de travailler sur qui il était, et j'ai eu de la chance, c'est-à-dire j'ai interrogé 2 personnes qui étaient dans une association de résistance, de mémoire de la résistance évidemment, puisque tous les résistants ont disparu, et qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas André Chex, mais qu'on pouvait se donner rendez-vous. Et lorsque je suis arrivé au rendez-vous, ils avaient retrouvé une petite boîte marquée André, qui leur avait été donnée par la famille d'André Chex une dizaine, quinzaine d'années auparavant, parce que c'était un oncle, un grand-oncle qu'il ne connaissait pas, dont il se doutait que la trace allait disparaître s'il ne donnait pas une association mémorielle. Donc ils l'ont donné, et je me suis retrouvé avec une...
C'est un peu la boîte au trésor.
La boîte au trésor, pour vous. Dedans, il y avait tout ce qui pouvait me conduire à écrire un livre, des photographies, la carte d'identité, la carte d'apprenti céramiste, un fume-cigarette, des tracts, une page de livre pliée en quatre... les photographies de lui et sa fiancée, des toutes petites photographies découpées dans les planches contact. Enfin, vraiment beaucoup d'éléments. Une fois qu'on a ça entre les mains, on continue un tout petit peu. Et
donc là, vous menez un véritable travail d'enquête, oui, en allant aussi dans les archives.
Là aussi, ça va un peu vite. C'est-à-dire que, effectivement, je suis pas confronté à une grande difficulté d'enquête, puisque j'ai réussi à retrouver, mais très facilement, une fois de plus, la fille de l'ex-fiancée d'André Chex, qui avait conservé aussi miraculeusement, 30 ans après la mort de sa propre mère, une enveloppe rouge qui contenait d'autres photographies. Des photographies qui souvent étaient sur le verso annotées, c'est-à-dire il y avait des phrases manuscrites dédiées à sa fiancée ou des phrases de sa fiancée. Donc j'avais pas de lettres, mais j'avais toutes ces photographies annotées. Mais j'avais beaucoup d'éléments, même psychologiques, sentimentaux, qui me permettaient d'avancer. Et j'ai travaillé là-dessus, en essayant d'imaginer sa vie, mais sans vouloir pour autant fabuler. C'est-à-dire que je vais jamais au-delà de ce que disent les mots, jamais au-delà de ce que disent les photographies. Mais ce qui m'importait, moi, c'est d'être fêté ce centenaire. Et je voyais mal comment le faire, sinon raconter l'histoire d'un jeune homme de 20 ans, avec son amour pour une autre femme de 20 ans. Et de c'est toucher le public avec moi, ce qui m'a touché. C'est vrai que j'étais ému, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très troublant à rentrer dans l'intimité d'un homme qui est tout jeune et qui s'engage et qui meurt dans des conditions qui sont en plus celles de ne pas avoir vraiment combattu. Il a peut-être combattu 3-4 fois, puisque la vie d'un maquisard, c'était un combat intense pendant 2 jours et ensuite une sorte de cache pendant 15 jours et puis on recommençait. Et ce moment de la libération qui coïncide avec l'arrivée des troupes qui sont les troupes de l'armée française, des colonies, donc ce sont des troupes coloniales du sud qui vont libérer la France.
Celles qui ont débarqué en Provence.
Ouais. Ils débarquent, alors on voit les endroits où ils débarquent, c'est drôle aujourd'hui parce qu'on peut pas imaginer, mais ils débarquent à Saint-Tropez, à Cannes. Ouais. Ce qui aujourd'hui nous paraît aberrant, on voit pas très bien comment ils pourraient débarquer dans les troupes entre les yachts de milliardaires, mais à l'époque c'est juste une plage Saint-Tropez. Donc ils débarquent à ces endroits-là qui sont des endroits idéaux pour faire arriver des bateaux de débarquement, mais c'est à ce moment que effectivement la Drôme se soulève, organise à sa manière, le soutien à ses troupes qui vont remonter la vallée du Rhône. Et lui meurt à ce moment-là, avant la bataille décisive de Montélimar, fauché par une automitrailleuse.
Et avec des dénonciations, d'ailleurs.
Avec une dénonciation,
avec
oui.
Avec des miliciens infiltrés dans le maquis, oui, donc les troupes de la résistance.
Là aussi, c'est pas non plus véritablement une enquête, parce que ces documents existent, on les retrouve facilement. Il se trouve que c'est pas des choses dont on parle très souvent, donc moi j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses en écrivant ce livre. Que j'aurais dû savoir, hein. C'est vraiment pas des choses qui étaient cachées. C'est juste que j'ignorais à quel point l'épuration avait été un filet avec des mailles énormes. Mmh. Voire pas de mailles. Et j'essaye de raconter l'histoire d'un village entre 42 et 44, un petit village de la Drôme, qui vit dans l'occupation allemande et qui appartient à ces petits villages comme Chambon-sur-Lignon qui sauvent des gens. Parce que c'est aussi un village très spécial, Dieulfi, qui est un village dit de juste, où il y a quasiment une population de 4500 habitants, mais sur les 4500 habitants, il y a 1500 réfugiés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une personne sur trois, quand on marche dans la rue, qui est un réfugié. Réfugié espagnol, réfugié politique, communiste, juif, artiste. Il se trouve qu'il y a Emmanuel Mounier, qu'il y a Segers, Aragon va y passer avec Elsa Triolet. Enfin, c'est un lieu un peu spécial, quoi.
Ce qui fait dire, là vous le citez, à la Gestapo de Lyon, que Dieulfi était un nid de communistes et de juifs.
Oui, et aussi c'est quelque chose qui fait dire à un moment donné que c'est la capitale intellectuelle de la France.
Oui.
Ce qui est assez touchant pour un tout petit village de 3000 habitants.
Si je vous dis que c'est aussi un livre politique, est-ce que vous acquiescez? Et vous dites, alors non seulement évidemment vous avez été touché, on l'a compris, ému, vous venez de nous le dire, par la destinée de ce André Chex, mort à 20 ans, mais vous dites, vous réitérez votre volonté de toujours parler de l'occupation, de la collaboration, du fascisme.
Et de, voilà. Et de notre âme. Oui. Et la façon dont nous aussi, plier, dont on peut se soumettre, dont on peut accepter l'inacceptable, et qui est peut-être inscrit d'une certaine manière dans notre comportement de primate. On a envie d'appartenir à quelque chose de plus grand, on a envie de se soumettre, quelque chose en nous accepte de se soumettre. C'est pour ça que je ne suis pas passé à côté, y compris sur un chapitre de petites expériences qui m'avaient frappé lorsque je les avais vues, que tout le monde connaît, mais qui, moi aussi, j'avais envie de les répéter, c'est-à-dire les expériences de type Köperlé, où on voit une classe entière devenir presque fasciste.
En quelques jours.
En une semaine à peine. En suivant un professeur qui veut leur démontrer que, oui, on peut très bien se mettre à obéir comme les Allemands l'ont fait pour X et Y raisons. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut se passer. Des expériences dans lesquelles aussi on est prêt à se conformer à ce qui va être un comportement général. Avec cette expérience complètement folle que j'ai rappelée, qui est celle de la salle d'attente, dans laquelle on apprend à des gens à se lever, à s'asseoir, sans aucune raison. Et qui, moi, m'a toujours stupéfié sur notre nature profonde. Notre nature qui consiste, effectivement, à faire groupe. Parce que nous avons, en tant qu'espèce, dans les moments les plus difficiles de notre histoire, c'est-à-dire le néolithique, face à une nature extrêmement adverse, compris que, en tant que groupe, en tant que tribu, il fallait faire front ensemble, y compris en se conformant à des règles parfois absurdes,
mais qui nous permettaient de survivre. Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire. Donc j'ai eu envie d'être dans ça. Et puis c'est vrai aussi que les événements récents font que des choses se sont produites au moment même où j'écrivais et qui m'ont choqué. Voilà, et j'ai pas eu envie de passer à côté de dire des choses sur ce que je voyais de l'époque et qui me paraissait surprenant, comme de voir que ça ne posait aucun problème à une manifestation sur l'antisémitisme, de voir défiler des membres du Front National, enfin du Rassemblement National, qui viennent tout de même d'un parti fondé par l'ancien FFNSS. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas rappeler quelque chose qui se passe au moment même où, en 72, où je raconte une autre histoire, qui est le moment où moi je vois nuit et brouillard, et je me dis au même moment, eh bien, il se trouve que est fondé le Front National. Et je regarde qui le fonde, et je rappelle simplement qui le fonde.
Vous le rappelez de manière...
De par là, pour rappeler que ce sont majoritairement des FNSS, oui.
Et vous dites d'ailleurs, alors là, c'est un propos encore plus actuel et politique, on ne débat pas avec le Front National.
Je ne parle pas du Front National, je dis ces gens-là. C'est-à-dire que je parle... Non, parce que je pense qu'on peut parler avec des gens du Front National. Je pense qu'il y a une petite évolution dans ce parti. C'est juste qu'il serait bon si... quelque chose peut être dit sur leur origine, qu'ils acceptent de le faire. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu une Marine Le Pen qui assumait toute l'histoire du Front National, et le disait encore il y a peu de temps. Mmh. Donc, dans cette histoire, il y a ça. Non, la question est avec ceux qui nient la liberté, avec ceux qui nient l'égalité humaine, avec ceux qui refusent, justement, la possibilité du débat par leur démarche, par leur fonctionnement, par leur pratique. Donc oui, j'ai repris la phrase de Vernant que je trouve magnifique, qui me semble résumer ce que je pense au fond, c'est qu'on ne discute pas de recettes de cuisine avec des cannibales, avec des anthropophages.
Avec des anthropophages,
voilà.
C'est la citation.
Et c'est une magnifique citation de Vernant, qui est un homme merveilleux, qui est un résistant, qui est un homme d'art, et qui, sur cette question, était très ferme. Et je pense que cette fermeté nous manque un petit peu parfois.
Je vous cite, on ne débat pas de telles idées, on les combat, parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés. La tolérance prend fin avec l'intolérable.
Oui, je le pense sincèrement. Et une des formes du débat politique sous forme d'anathème et d'injure qui se pratique sur certaines chaînes me choque, parce que effectivement, ça ne me paraît pas une conversation. Et il me semble que dans un débat démocratique, il faut qu'il y ait conversation, respect de l'autre, respect des idées de l'autre, et lorsque c'est pas le cas, je suis l'un vrai, voire choqué.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure nuit et brouillard, et vous avez cette phrase qui est très très forte, j'ai été éjecté de l'enfance par un film, donc ce film Nuit et brouillard d'Alain René. Et
oui,
c'était
oui.
Vraiment un moment, un tournant dans votre vie.
Clairement, je sais plus quel âge j'ai exactement, 12, 13, 14 ans, je sais pas. Et j'étais un enfant unique, donc les enfants uniques restent plus souvent, plus longtemps dans l'enfance que les autres peut-être aussi, parce que les parents les protègent du monde. Et d'un seul coup, au ciné-club de mon collège, je vois ce film avec la voix de Michel Bouquet. Donc c'est vraiment une vision de la violence nazie à travers les camps, qui, quand on a 12 ou 13 ans et qu'on voit des bulldozers charrier des cadavres, oui, là il y a un choc émotionnel très très fort. On quitte complètement le monde de l'enfance pour se poser la question, qu'est-ce qu'ont fait mes parents? Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Et je suis revenu chez moi, plein de questions, et j'ai jamais eu des réponses. Et c'est quelque chose qui n'est pas uniquement personnel. Je pense que c'est toute une génération qui a vécu ça. C'est une génération qui naît à partir de 45.
Le citoyen que vous êtes devenu ensuite, voire le militant pendant une période de votre jeunesse, donc à l'extrême gauche, est-ce que il s'est forgé à ce moment-là? Il a forgé ses convictions. Il a choisi son camp à ce moment-là.
Oui, enfin, je pense qu'en tout cas, la question de la violence d'un régime autoritaire. Moi, j'étais vraiment à la fois un anti-stalinien, donc et un anti-fasciste, donc les deux me paraissaient extrêmement cohérents. C'était une vision du monde que j'avais et que j'ai toujours, fondamentalement, dans lequel l'idée de l'égalité entre les hommes était fondamentale. Donc, ce qui allait s'y opposer et d'une manière aussi incroyablement violente, je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose de prégnant en moi, quoi. Et vraiment, ce film a joué un rôle décisif. C'est pas l'unique moment de radicalisation, comme on dit. J'adore le mot radicalisation, ça commence pas comme radis. En fait, c'est pas faux, parce que c'est l'idée des racines, en fait, dans la radicalisation. C'est chercher les racines et chercher d'où on vient. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à militer en cherchant à comprendre par la lecture. Donc je pense que oui, c'est un point nodal. Tout le monde, à un moment donné, connaît quelque chose qui est de cet ordre-là. Beaucoup de militants viennent par leur vie quotidienne. Les militants antiracistes qui sont noirs, qui sont juifs, viennent parce qu'à un moment donné, on les traite de sales noirs ou de sales juifs. Moi, j'étais un petit bourgeois blanc qui ne pouvait pas, à un quelconque moment, arriver à cette radicalité par ma propre vie. Donc je suis venu par là, par le biais de la vision de quelque chose qui était ultra-violent et qui était de l'ordre de l'espèce humaine, ce que l'espèce humaine pouvait faire à l'espèce humaine. Et ça m'a vraiment frappé. Et je pense que tout a été ensuite clivé dans ma vie par cette vision-là.
Alors ce livre fait un peu moins de 160 pages, mais il est d'une grande densité, et c'est, alors il y a l'évocation bien sûr de Sir André Scheckx, mais on revisite aussi tout un pan de notre histoire et du contexte politique d'aujourd'hui, et notamment vous revenez sur la façon dont on a voulu effacer ou oublier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et en privilégiant la réconciliation à tout prix.
Je fais que revoir ce qui a déjà été dit par tous les historiens, ça a nécessité cette vision que j'ai un peu découverte de la réconciliation organisée entre les Français sur le dos finalement des victimes, en disant que par exemple pour le massacre d'Oradour-sur-Glane, j'ignorais qu'il n'y avait quasiment aucun condamné, que le procès qui avait eu lieu avait donné naissance à des condamnations, mais que la loi d'amnistie est tombée quasiment le lendemain. Ce qui fait que personne n'a jamais été condamné.
Et avec, vous le rappelez, moi j'ignorais ça, que c'est pourquoi pendant 20 ans, aucun officiel ne sera convié à Oradour-sur-Glane par l'Association Nationale des Familles des Martyrs.
Moi j'ignorais ce... Bah, moi non plus, je ne savais pas. C'était en travaillant sur cette question que j'ai pas mal lu, et j'ai découvert que non seulement il n'avait jamais été invité, mais que le monument aux morts a été payé en refusant l'argent de l'État
français. Les fonds publics, oui.
Voilà, ouais. Aucun fonds public n'y est arrivé, parce que il n'y a jamais eu de condamnation par la justice française. Et la colère était grande, et on peut comprendre quand il y a des centaines de gens qui meurent dans une église brûlée vif, et qu'il n'y a pas de coupable, on peut s'indigner, effectivement. On voit bien qu'après la guerre, mais tout le monde le sait, tous les historiens le savent, il y avait un besoin de reconstruction, il y avait un besoin d'apaisement. Simplement, l'absence totale de condamnation dans certains cas peut choquer. Voilà.
Merci beaucoup, Hervé Le Tellier, d'être revenu sur cette aventure incroyable de l'anomalie, 4 ans déjà, et surtout d'être venu nous parler de votre nouveau livre, Le Livre d'après, qui a pour titre Le Nom sur le mur. C'est publié chez Gallimard. Merci, Hervé Le Tellier.
Merci beaucoup.
Merci.